La convection est évidente au niveau des dorsales et des points chauds. Mais qu'en est-il dans les zones stables mantelliques? La conduction prend-elle le dessus sur la convection? En ce sens, est-ce logique de parler de géotherme moyen dans le manteau terrestre? Alors, il n'y a pas de zone qui soit à l'abri de la convection. La réponse, il n'y a pas de zone qui soit à l'abri de la convection, à part les couches limites conductives. On appelle les couches limites thermiques. Hein. Donc, il y a une partie solide, une partie solide, enfin, tout est solide, vous allez me dire. Il y a des parties qui sont rigides, qui ne convectent pas, donc le couvercle, avec une petite brisure quelque part qui est la ride, par laquelle s'échappe la fumée, comme dans les huttes des Gaulois. Hein. Donc, il y a une brisure au sommet de cette croûte qui est dessus. Cette croûte se refroidit et par son poids s'enfonce. C'est un peu comme sur une nappe qui tombe au fond hein, sur le bord d'une table. Voilà. Mais il n'y a pas... Le reste du manteau est entièrement convectif. Comment on le sait? Parce que si on fait n'importe quel calcul de gradient thermique qui est là, eh bien, on trouve très rapidement que c'est instable par rapport à la convection. Donc, il n'y a pas de zone stable du manteau et de zone convective. Il n'y a pas des zones ascendantes et des zones descendantes et entre, il ne se passerait rien. Non, tout est animé d'un certain mouvement. Il y a des gradients de vitesse. Il y a probablement des points temporairement stables. Donc, le gradient conductif ne peut s'appliquer qu'au couvercle conductif du manteau convectif. Il peut s'appliquer qu'au couvercle ou alors à la couche limite qui est en dessous, probablement à la couche de seconde, la limite noyau-manteau, donc dans les ou alors dans la lithosphère continentale. Là, on peut faire de la conduction. Le reste, c'est du transfert convectif et c'est pour ça que le modèle de référence de base pour la variation de température dans le manteau, c'est le gradient adiabatique, hein, c'est-à-dire la variation de température juste par... montée et descente du paquet. Cela veut dire simplement que la vitesse à laquelle la chaleur se propage est beaucoup plus grande à cause des mouvements de convection qu'à cause de la diffusion thermique. La diffusion thermique est un processus paresseux par rapport à la convection. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conduction dans le manteau convectif, ça veut dire que son efficacité est très faible par rapport à l'efficacité de la convection.
Dans le même ordre de transport de chaleur, l'advection.
L'advection, oui. Quel est le...
Je ne sais pas, dans le programme de CPST, par exemple, il y a eu un débat. Donc, si j'ai bien compris, un transport de chaleur par advection, la troisième forme de transport, quoi, conduction, convection, advection. Il la demande en l'état. Alors, il semblerait que ce soit un transport de chaleur qui ne soit pas dû au mouvement dû à la différence de température. Il y a un mouvement de matière qui transporte de la chaleur, mais ce n'est pas la différence de température comme dans la convection.
Il n'y a pas trois termes, il n'y a que deux termes. Il y a l'advection et la conduction. Il y a l'advection qui est... En gros, je me mets dans une rivière avec des poissons. Hein. Alors, la rivière, il y a un mouvement de la rivière, et puis il y a le mouvement des poissons par rapport à l'eau de la rivière. Alors, si je suis sur le pont... ou si je suis dans un bateau qui dérive au fil de l'eau, j'ai une vision différente. Mais l'advection, c'est le mouvement de l'eau, et la diffusion, qui pour la chaleur est appelée la conduction, hein, c'est le mouvement des poissons par rapport à l'eau. Si vous allez à la manif hier ou aujourd'hui, c'est pareil, si vous vous promenez dans la manif ou avec la manif, si vous remontez la colonne, si vous la descendez, ça c'est de la diffusion. Mais si vous suivez la manif, c'est de l'advection. Il n'y a pas de troisième. La convection, c'est l'ensemble... Avant, il y a une chose qui a disparu maintenant, mais qui était la différence entre la convection naturelle et la convection forcée. Mais la convection, c'est un mot que l'on utilise pour décrire un système dans lequel il y a des mouvements. Hein, la convection elle-même. Dans la convection, au début, bien sûr, on part d'un système qui est purement conductif, dans lequel il n'y a pas de mouvement. Quand le mouvement s'accélère, le mouvement de la convection s'accélère, le transfert se fait essentiellement par le mouvement du matériel. Est-ce que ça répond à ta question?
Non, je trouve que plus je tourne autour du problème, plus je comprends. problème. Moi,
non, il n'y a que... Voilà.
Finalement, c'est la convection, c'est pour indiquer un mode de déplacement, mais le transport de chaleur, c'est de la friction.
Il y a deux types de transferts qui sont le transfert... En fait, il n'y a qu'un transfert. Alors, on va se mettre... Voilà. On regarde la rivière avec les poissons, il n'y a qu'un transfert, il y a un mouvement. Mais en fonction de la position que je vais adopter par rapport à la rivière et aux poissons, je vais avoir une description du même phénomène qui sera différente. Si je suis pêcheur sur un pont, je vais voir la rivière bouger, je vais voir les poissons bouger. Si je suis un promeneur paresseux avec une barcasse et une paire de rames et que je m'intéresse plus à la fille qui est dans la barque, etc., je vais laisser dériver et je vais me mettre à la vitesse moyenne du système qui est la vitesse de l'eau. Donc je serai dans un mouvement advectif et les poissons vont être transférés. Je serai transféré avec une vitesse advective. Mais je vais regarder du coin de l'œil, parce que je m'intéresse à la rivière quand même, les poissons qui vont devant, qui vont derrière, etc. Et ils vont remonter le courant, descendre loin, par rapport à la barque. Donc ça sera le mouvement diffusif, c'est le mouvement qu'on appelle des fois moléculaire, c'est la diffusion pour les atomes, c'est la conduction de la chaleur. Hein. Donc il y a ces deux mouvements, le mouvement de la barque par rapport au fil de l'eau, hein, et le mouvement des petits poissons par rapport à la barque. Donc, le mouvement des petits poissons par rapport à la barque, c'est la conduction. Si la barque est à l'arrêt, si je suis pour des raisons diverses, je me suis mis dans un endroit où il n'y a pas de mouvement d'eau, à ce moment-là, tous les mouvements seront, je les décrirai comme étant purement diffusifs, purement conductifs. Si je vais dans les rapides de je ne sais pas quoi, la diffusion, je pourrais probablement négliger. Ce que je suis en train de dire, c'est que la diffusion dans le manteau, dans la partie convective du manteau, est négligeable par rapport au transfert advectif. C'est-à-dire que la barque va vite par rapport au déplacement des poissons par rapport à la barque. Est-ce que cette analogie vous satisfait ? C'est une chose qui n'est pas toujours évidente. C'est une question de point de vue.
On peut essayer de mettre une discussion, justement, ça peut être très intéressant de mettre une discussion dans l'espace d'accompagnement de cette formation. Parce que je crois que ça mérite qu'on fasse un petit dossier sur ça.
C'est plus qu'une définition. La définition est simple. Hein. Reprenez les poissons, reprenez la barque, reprenez la manif. Hein. Reprenez la manique, la manif. Le mouvement est une question d'observateur. D'accord. Si je suis sur la Terre aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis immobile. Si je regarde par rapport au Soleil ou par rapport à Sirius, je vais à une vitesse folle. Donc le mouvement est une chose qui est... Alors il faut se fixer un repère, soit un repère qui... Vous connaissez Coriolis, hein, même les repères qui tournent, l'impression d'être immobile. Alors, et on traduit le fait qu'on tourne par rapport à l'univers avec Coriolis. C'est toute une question de définition du point de vue de l'observateur. C'est rien qu'autre chose. Alors, là, on définit pour la géodynamique, on regarde le manteau par rapport au référentiel qui est la surface. Le manteau bouge, ça, c'est la partie convective. Quelle est la vitesse à laquelle la chaleur bouge par rapport au manteau, parce que c'est ça, par rapport au mouvement du manteau, ça, c'est la conduction. Non. La conduction, c'est la vitesse à laquelle on pourrait parler, d'ailleurs on parle de particules de chaleur, on parle de phonons par exemple. Hein. C'est une façon jolie de décrire la quantité de chaleur. Vous pouvez décrire le phonon qui bouge par rapport au manteau. C'est la conduction de la chaleur. Mais le manteau, il a son mouvement avec les plaques qui descendent, avec les points chauds qui remontent, etc. Tout ce mouvement, ça, c'est le mouvement advectif. L'ensemble, je dis qu'il y a convection parce qu'il y a mouvement. Si le manteau était parfaitement rigide, je n'aurais plus ce mot convection dans mon discours. Si le manteau était immobile, sans mouvement, je n'aurais plus convection. Parce que je n'aurais plus d'advection.
Est-ce que l'image de la foule, en mouvement, que je pourrais assimiler à une convection, je dis que, par exemple, l'idée qui pourrait passer de l'un à l'autre, on se transmet un message de l'un à l'autre au sein de cette foule qui bouge.
Voilà, oui.
Donc ça, c'est de la conduction.
C'est de la conduction, c'est-à-dire un mot d'ordre, un mot d'ordre.
Ça pourrait être la convection.
Voilà, à part que c'est deux... À part que c'est oui, à part que là, on transmet deux objets de façon différente. Je préfère l'idée du vendeur de pizza, du vendeur de glace à l'intérieur de la manif, qui va monter, s'il reste au même endroit, il aura vendu les glaces aux 10 personnes autour de lui, il ne fera pas d'affaires. D'accord ? Donc il aura intérêt à se déplacer dans la manif. Là, le message qu'on fait passer d'une personne à l'autre, c'est effectivement ça, une nature diffusive au mouvement. Mais on communique un message verbal alors que, et qui est de nature différente du mouvement des personnes. D'accord ? Là, les deux mouvements sont les mêmes. Donc si je prends mon vendeur de glace, il va monter, il va descendre, ce sera un mouvement diffusif par rapport au référentiel qui sera, par exemple, le groupe des gens qui sont ici, qui vont se promener à la vitesse de la manif. Voilà, par exemple, voilà. Le message du porteur de panneau et le message qui va se promener de bouche en bouche, bouche à oreille, pardon. Quelle horreur.
Est-ce qu'en géologie, on pourrait donner synonyme convection et advection, alors que les météorologistes, je crois que l'advection, c'est purement le mouvement horizontal.
Non, c'est on ne peut pas avoir de mouvement purement horizontal. Ça veut dire que ce serait laminaire.
Quand l'advection, quand c'est horizontal, et convection, quand c'est l'ensemble. Bien, est-ce qu'en géologie, advection et convection, aujourd'hui, les géologues emploient l'un pour l'autre ou pas ?
Tout le monde emploie la même définition. La convection, c'est la constatation qu'un milieu qui est soumis à des gradients de densité se met en mouvement. L'advection, c'est la vitesse du barycentre des masses, la vitesse du point moyen de masse local. C'est-à-dire que dans l'air, bon, je dis que c'est convectif parce que la Terre est chaude, donc va réchauffer l'air par en dessous et il va y avoir des choses qui vont se déclencher. Hein. Ça, je dis que c'est convectif parce que j'ai des gradients de densité qui vont déclencher des instabilités et donc toute fluctuation par rapport à cet état-là est instable, donc se développe un mouvement. Les fluctuations déclenchent l'instabilité. C'est ça, la convection. L'advection, c'est simplement la constatation du mouvement. L'advection est le mouvement. Je ne peux rien dire d'autre. L'advection n'est que le mouvement. C'est la vitesse, en quelque sorte. Hein, et il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas de contradiction entre la météo, la géologie, etc. etc. Hein, la convection, retenez-le pour dire que c'est un état de variabilité de la densité qui produit des instabilités génératrices de mouvements advectifs. D'accord ? C'est deux choses.
Donc il n'y a pas de transport de chaleur par advection. Voilà.
Non, il y a.
C'est l'advection qui transporte.
L'advection.
Voilà. On laisse ça sur le site et on va traiter ça. S'il y a d'autres questions sur la chimie.
J'essaierai de mettre quelque chose sur la convection et l'advection. Ça fait des années que j'explique ça aux étudiants. C'est vrai que...
On a l'endroit maintenant où le mettre. Ouais. T'as vu les questions, donc voilà. C'est bon, ça y sera.
Dans l'image qui est présentée là, il y a encore là, l'océan magmatique, on peut avoir une idée de sa composition ? Il ressemble plus à une péridotite
Probablement au matériel qui a... La fusion est totale. La fusion est totale. La température de l'impact est tellement forte... que la fusion est totale.
Donc, d'accord ? Voilà.
Non, la partie supérieure. Hein. Ne pas oublier que quand on était ici, la contribution de la gravité était très faible. Hein. Donc, quand on empilait du matériel, plus on monte, et plus ça fait mal quand ça tombe.
Vous avez donné l'épaisseur de 1000
km. À peu près, oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a...
Disons un millier de kilomètres. C'est quelque chose comme ça, à peu près. On ne peut pas chiffrer ça parce que cela dépend de la vitesse d'accrétion, cela dépend de la vitesse de perte de la chaleur, et ça, ce n'est pas suffisamment bien. Bon.
Donc, la plus... dire, c'est plutôt un basalte ou une exotique. C'est pas un océan.
L'océan lui-même correspondra au matériel, à l'impacteur fondu. Plus ou moins le fer. Plus ou moins le fer qui va s'échapper immédiatement. C'est pour ça que le fer, il va tomber comme une masse au fond. Hein. Mais par contre, lorsqu'il y a un impact, on arrive à 2, 3, 4, 5 000 degrés et tout va fondre. Alors, à partir d'ici, hein, là, on ne fond rien et puis tout d'un coup, on va fondre brutalement. Donc ça, c'est la composition d'une chondrite, mais d'une chondrite parce que les chondrites sont moins appauvries que la Terre, parce qu'elles sont moins près du Soleil. Hein. Donc, mais pour les matériaux réfractaires, oui, sera la composition d'une chondrite, moins le fer qui sera perdu presque instantanément ou instantanément vers la base. Et comme il y a quand même beaucoup de fer hein, dans une chondrite.
Et la banquise, là, alors, ce serait...
La banquise, c'est la réaction entre l'eau et ça.
D'accord.
Serpentine, amphibolite, etc., etc. Quoi. Et puis dessous, il y aura des péridotites, il y aura des gabbros, il y aura des... je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Enfin, bon. C'est ce qu'il y a sur... Bon. Sur la Lune, c'est un peu différent. Sur la Lune, hein, comme la gravité est faible, le plagioclase est beaucoup plus stable. Donc sur la Lune, il y a une histoire très, très différente. C'est assez lié à la gravité. Mais la Lune, on sait qu'il y a eu un impact, un océan magmatique très important. C'est vraiment l'endroit où ça a été décrit de la plus, façon la plus spectaculaire, et bien que la planète soit beaucoup plus petite. Alors on se dit que pour la Terre, il n'y a pas photo. Quoi.
Comment il s'échappe le fer si c'est solide entre le sang magmatique et...
Il va percoler, il va être fondu, il va percoler au travers de la péridotite. Parce que là, c'est quand même chaud, et donc c'est très déformable. Hein. Et donc les petites gouttes qui vont d'ailleurs, il va y avoir une coalescence, ces petites gouttes en masse de plus en plus grosses de fer, et elles vont tomber très rapidement. Alors la question est de savoir si elles s'accumulent quelque temps. Vous verrez des dessins dans lesquels le fer s'accumule au fond de l'océan magmatique ici, les trucs de Stevenson là. Oui, c'est bon, intéressant, mais ce n'est pas très important. Le contraste de densité est tel que...
Est-ce qu'on peut estimer dans combien de temps la convection aura cessé dans le manteau solaire, le refroidissement entre guillemets, et comparer avec, par exemple, Vénus, qui a la même taille ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a convection, on revient sur ce terme-là, lorsque le nombre de relais dépasse une certaine valeur critique. C'est-à-dire, pour parler en termes de tous les jours, lorsque la résistance du milieu à la friction va s'opposer, sera suffisante pour s'opposer disons, à un mouvement. Hein. Si vous partez d'une surface plane comme ceci, et puis que vous déclenchez une petite ride, si la ride, alors si c'est plus léger en dessous, si la ride bon, on va gagner donc en gravité, mais si ça crée une friction au voisinage de l'interface qui va résister, eh bien, la petite ride va s'affaisser. Hein. Alors ça, c'est le nombre de relais critiques qui va contrôler le début de la convection. Deuxième chose, c'est les sources de chaleur. Alors les sources de chaleur, on en a encore pour un certain temps avec l'uranium-238. L'uranium-235, on a presque fini. Il y en a un peu chez les militaires encore, mais il n'y en a quasiment plus ailleurs. Hein. Donc l'uranium-238, l'uranium-232, il y en a un peu, mais il ne contribue pas beaucoup à ça. Alors ce qui va compter énormément, c'est le mode de convection. J'espère que Fabien vous en parlera. C'est-à-dire que si on oppose, par exemple, la Terre à la Lune et à Mars, la différence dans le mode de convection est extrêmement violente. C'est-à-dire, sur la Lune, sont apparus très tôt des plagioclases qui ont isolé la planète à la surface. Les plagioclases, ça flotte dans le magma, et puis ça a isolé la planète, ce qui fait que l'océan magmatique a été instantanément isolé, donc il a pu durer longtemps. Donc la chaleur reste dedans parce qu'on est limité à une perte par conduction à la surface. Et ça, c'est très long. C'est pour ça que la Lune est restée chaude pendant plus d'un milliard d'années malgré sa petite taille. Si vous regardez la Terre, on est limité, la perte de chaleur est limitée par les plaques. C'est la tectonique des plaques qui fait ça. Et ce qui nous permet de perdre de la chaleur assez vite, c'est le fait que les plaques sont lourdes et avec un petit peu de résistance, alors là on perd un petit peu de chaleur au genou, là où ça plie, mais la plaque s'enfonce et le matériel chaud arrive sous les rides et on perd de la chaleur sous les rides. Mais simplement parce qu'on est en train de tirer sur la nappe, qu'elle se déchire au milieu et qu'il y a du machin chaud qui remonte et qui va se refroidir à l'interface. Ça, c'est... Alors, Mars, c'est intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une énorme lithosphère qui est un peu, qui peut être assez semblable à celle de la Terre. La Mars est, disons, un peu plus petite que la Terre, mais il n'y a certainement pas de tectonique des plaques. On le voit maintenant, on le sait. Et donc, il y a de la convection, mais la convection se fait en dessous du couvercle. On a parlé de couvercle stagnant, c'est le mot employé. On a une espèce de carapace autour, de carapace conductive, et qui va faire une bonne bouteille thermos, hein, parce que là, ça va isoler, on est obligé. Donc, Mars va garder sa chaleur très longtemps, c'est pour ça qu'il y a probablement encore Olympus Mons et des choses comme ça, qui n'ont peut-être pas plus d'un milliard d'années, choses comme ça. Donc, c'est très difficile, parce qu'il n'est pas évident que lorsque l'on va baisser la production de chaleur, la Terre continue à garder la tectonique des plaques. On pourrait imaginer que les plaques s'arrêtent. Une catastrophe que ce qu'on ferait en géologie, ça. C'est un désastre pour nous tous. Hein? Mais la réponse à cette question est pas quantifiable de façon simple. Hein? On peut basculer dans un régime dans lequel, alors c'est en plus compliqué par une chose dont on se rend compte actuellement, c'est la déshydratation du manteau. On sait que la déshydratation du manteau rigidifie le manteau. Donc, suivant qu'on recycle plus d'eau, c'est une chose qu'on n'a pas bien comprise, quand on remet plus dans le manteau, plus d'eau qu'on en enlève, ou si on déshydrate le manteau, la rhéologie du manteau risque d'évoluer au cours du temps. Hein, la viscosité du manteau, lorsqu'on perd combien les 100 ppm d'H2O qu'il peut y avoir dedans, va augmenter de 2 ordres de grandeur, quasiment. Alors, si on en met... ou si on en enlève, la réponse, c'est pas clair. Et donc, comme on sait que plus c'est rigide, plus on a du mal à convecter, la perte de la chaleur sera différente.
Il semblerait qu'il y ait de la convection partout, apparemment. Ceci dit, il y a quand même des grandes cellules qui existent, entretenues. Oui.
La tectonique n'est pas différente de la convection. Elle est partie intégrale de la convection. C'est-à-dire que un des éléments de la différence de densité, c'est la lourdeur des plaques. La tectonique, on ne peut pas la déconnecter de ce qu'est. Bon, on a quelque chose qui a déclenché un gradient de densité, et ce qui est lourd, ça doit aller au fond. C'est la seule chose que l'on connaît. Alors, on sait que c'est chauffé partout. Il n'y a pas un effet qui est différent de l'autre. Est-ce que ça paraît... c'est une chose, je sais, c'est un concept qui a eu, qu'on voit tellement torturé dans des copies ou dans certains livres. On imagine, alors la convection, on imagine des cellules, mais non, la cellule, c'est quand c'est chauffé par en dessous. Mais... alors, on peut dire qu'il y a de la chaleur qui vient du manteau, mais l'essentiel du chauffage du manteau, c'est de l'intérieur. C'est les matières radioactives qu'il y a dans le manteau. Donc, c'est pas comme votre casserole de lait que vous faites, ou le café. Non, le café, c'est pas bon à se réchauffer. Mais la casserole de lait que vous faites chauffer par en dessous, et il y a de la convection, c'est différent. Vous avez de la matière qui est chauffée dans la masse, et comme il y a, on peut perdre de la chaleur à l'extérieur, il y a un gradient de température, c'est beaucoup plus froid à l'extérieur, et donc tout le truc se met en route comme ça. Hein? Mais il n'y a pas un système de convection auquel seraient superposées les plaques, seraient superposés les points chauds. Non, l'ensemble est la convection. D'accord ? Et on le voit, j'aimerais bien avoir une animation, si on pouvait piquer un truc à Paul Taclay ou à quelqu'un comme ça, on voit qu'effectivement, il n'y a pas deux systèmes qui sont déconnectés. Arrêtez tout, oui, oui, bien sûr, oui. On pourrait, moi, mon idée, c'est que si la convection se ralentissait, on ferait des plaques plus épaisses, dans des plaques plus difficiles à plier, donc des plaques qui ne pourraient plus plonger, ça c'est fondamental. Pouvoir plier les plaques, ça veut dire qu'il faut dégager suffisamment d'énergie gravitationnelle. L'énergie gravitationnelle va être entièrement dissipée en friction. Ça, c'est un théorème de la physique de base. Donc, si les plaques sont plus épaisses, mais ne peuvent pas se plier, ben, elles vont rester là, puis elles vont rester à la surface, et tout va s'arrêter. Et alors, à ce moment-là, on ne va pas arrêter la convection pour autant, mais on aura un système de type martien dans lequel ça convectera en dessous. Alors, je ne pense pas qu'on évolue un système de type Vénus, par exemple, dans lequel tout convecte périodiquement jusqu'à toute la surface de Vénus est jeune, on le voit avec... D'accord, toi qui connais bien ces choses-là, on voit qu'il y a des mouvements. Il n'y a pas de vieille surface, il n'y a pas beaucoup de cratères, il n'y a quasiment pas de cratères à la surface de Vénus. Donc tout bouge comme ça, c'est un paquet de... C'est pour ça que la réponse à la question tout à l'heure était difficile.
Autre question. Vous avez dit, qu'est-ce qui fait que ça craque, la plaque, elle craque?
C'est la gravité, c'est-à-dire qu'on a une plaque qui est comme ceci. Et si elle est, comme elle se refroidit, donc son épaisseur augmente, bon, racine de T, c'est pas très grave, l'épaisseur augmente comme ceci, donc la partie lourde est au bord, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plier comme ceci. Et donc l'équilibre se fait entre l'énergie gravitationnelle qu'on récupère par le fait qu'on enfonce du matériel dense dans du matériel léger, donc c'est le travail de la force d'Archimède, et la dissipation thermique, donc on égale le travail de la force d'Archimède à la dissipation thermique. Si on ne peut pas fonctionner comme ça, eh bien, le système va devenir un système totalement isolant. Et la chaleur radioactive ne pourra plus s'échapper dans le repliement de la plaque. Elle ne pourra plus s'échapper au niveau des rides parce que les rides n'existeront plus. Donc, l'entièreté de la chaleur va s'échapper par conduction au travers de cette espèce de bouclier continu qu'il y a partout. Qui peut arrêter des tas de choses. Ça ne va pas arrêter la convection, mais ça peut rendre le manteau plus chaud, arrêter la différenciation du noyau, par exemple. C'est pour ça qu'on pense que Mars n'a pas de champ magnétique. C'est que le noyau est trop chaud, et donc on ne peut plus faire de convection à l'intérieur du noyau, donc plus de dynamo, plus, etc.
Il semblerait que ce soit donc des mouvements d'ensemble et bon, j'avais cru comprendre à un moment qu'on proposait un entraînement des plaques lithosphériques par couplage avec les cellules productives, avec un rendement qui serait modeste de l'ordre de 10%. Ça, c'est des principes qui donc tombent un peu en désuétude ou qui vont s'éteindre.
Non, les calculs de rendement existent encore, mais je pense que il y a eu là, effectivement ces grosses discussions dans les années 70-80. Libouterie avait introduit le concept de rendement de tectonique des plaques, je me rappelle, c'était un truc qui était assez marrant. Ces concepts existent encore. Ce dont on s'est rendu compte quand même, c'est qu'on n'est pas dans un système convectif tel qu'on les connaît dans les livres, avec soit le gaz sous la casserole, soit même quelque chose qui soit du chauffage interne et puis une surface libre. La surface n'est pas libre. D'accord ? Et une surface qui n'est pas libre est isolée. Alors comment ça peut fonctionner ? C'est ce que je disais à l'instant. On peut distribuer la perte de chaleur. Je vous montre une image d'une autre présentation. Une seconde. On peut distribuer la perte de chaleur de façon, alors je pense que si je le mets voilà, par exemple aux ouches, il me semble que j'ai donné ça, C'est ça qu'il faut comprendre dans les systèmes convectifs. Est-ce que je vais avoir ça? Vous voyez, je recycle quand même pas mal de choses. Hein. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est cette image-là que je voulais vous montrer, hein, dans laquelle vous avez plusieurs façons de perdre, les trois façons de perdre la chaleur interne, qui sont là, qui sont l'advection. Si vous aviez une surface libre, si nous vivions sur la surface d'un lac de lave, ce que pas vraiment mon souhait le plus cher, hein, mais, et que toute la chaleur se dégage là, à la surface, c'est un mode de fonctionnement. Peut-être c'est Vénus. Hein. Si tout est conductif au travers des plaques, ça c'est Mars. Hein, tout en conduction, comme là. Hein, là et là, vous enlevez tout ça et vous bouchez. Et la Terre fonctionne avec un niveau différent. D'abord, on perd une quantité importante de chaleur ici. Et la proportion de ça est égale à l'énergie gravitationnelle qui est perdue, qui est récupérée sur la subduction des plaques. Hein, voici. Alors, suivant que vous fractionnez la chaleur perdue dans les différents termes, vous allez avoir un différent type de planète. Mars, la Terre qui est là, peut-être Vénus qui est ici. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que ça vous paraît plus clair comme façon ? Mais il n'y a pas... fondamentalement, le moteur actuel pour nous, c'est ça. Hein, c'est que c'est lourd et ça tombe au fond. Voilà, c'est ça qui est. Et puis le reste, ça suit. Quoi.
Il n'y a pas de subduction.
Hein ? La subduction n'est pas dans l'Atlantique, mais elle est ailleurs. Il y a des endroits où il n'y a pas de subduction. La plaque antarctique, par exemple, n'a aucune zone de subduction accrochée. C'est pour ça qu'elle flotte bêtement à la surface, sans bouger, hein, à la surface du manteau. La plaque antarctique, elle est là, comme la plaque africaine, goofie, là, elle ne bouge pas, hein, parce qu'il n'y a personne pour vous tirer dessus. C'est ça qui est formidable. Ça montre bien, hein, les mouvements absolus des plaques par rapport au système des hotspots, montre l'effet de la subduction. Il n'y a personne qui tire dessus. Hein? Alors, si vous prenez le Pacifique, tout le monde tire dessus, dans tous les coins, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et donc elle va à une vitesse folle.
D'accord ? Si vous prenez l'Atlantique sud, il y a rien qui plonge.
Oui, mais c'est compensé ailleurs. C'est pour ça que l'Atlantique s'ouvre progressivement, parce qu'il y a... C'est compensé ailleurs que dans le Pacifique. Et effectivement, ça peut avoir des effets locaux sur le régime thermique à l'intérieur du manteau. Ça, on peut très bien imaginer.